France Inter. La Terre au carré.
Il est 14h30, on passe au vert avec vous Camille Cronier.
Et vous savez que j'aime bien vous emmener plonger de temps en temps. Alors enfilez les palmes et on y va. Voilà, nous sommes au large de l'Australie, sur la grande barrière de corail, qu'on imagine étincelante, un festival plein de couleurs. Mais là, en cette fin mars, regardez un petit peu, le corail est blanc. Voir blanchir un endroit qu'on aime tant, c'est désastreux, dit cette plongeuse d'une association de conservation remontée sur le bateau. Une grande partie des récifs subit depuis quelques semaines un phénomène de blanchissement. Les images aériennes faites sur plus de 1500 km en témoignent. Comme le directeur scientifique de l'autorité du parc marin de la Grande Barrière, David Wachenfeld.
Nous avons constaté un blanchissement généralisé, mais variable dans plusieurs régions.
Avec des zones donc plus sévèrement touchées que d'autres, et la raison, la voilà.
Les températures sur le récif au cours de la semaine dernière ont été supérieures à la moyenne pour le mois de mars, d'un demi-degré à 2 degrés dans la plupart des endroits. Mais jusqu'à 4 degrés dans certains endroits. Ces anomalies thermiques se sont aggravées depuis le début du mois de mars, ce qui va à l'encontre de ce que l'on pourrait attendre d'un mois de mars typique où les conditions se refroidissent généralement. Ça signifie que le stress thermique a continué à s'accumuler sur le récif, la zone la plus touchée étant la zone centrale.
Incompréhensible pour les plongeurs. Ariette trouve que le fait que ça arrive une année dite la Niña, phénomène refroidissant normalement les températures dans le Pacifique, est inquiétant et que ça montre bien la pression constante que subit le récif à cause du réchauffement climatique. Confirmation de Serge Plane, directeur de recherche CNRS au laboratoire Cryob, spécialiste des écosystèmes coralliens.
Ce qui se passe, c'est que on se rend compte qu'on est vraiment sur un dérèglement climatique. Les périodes El Niño, la Niña, les anomalies de température, finalement tout ça devient de plus en plus, je dirais, chaotique. Et on a des constitutions de bulles d'eau chaude, ce que les anglo-saxons appellent des warm blobs, qui vont à des moments arriver sur une zone avec du récif corallien et entraîner des blanchissements assez importants.
En sachant que la Grande Barrière, qui représente 14% des récifs coralliens de la planète, est particulièrement touchée par ces phénomènes. C'est le sixième depuis 1998 et le rythme s'intensifie.
Ça devient de plus en plus redondant et ça devient de plus en plus régulier, c'est-à-dire c'est presque tous les 2-3 ans, parfois même 2 années d'affilée. Et c'est là que se situe le vrai problème finalement.
Parce que le corail a de moins en moins de temps du coup pour se remettre face à cette accumulation. Blanchissement après blanchissement, on sait qu'à chaque fois il reste moins de corail, dit cette biologiste australienne. Mais Serge Plane tempère un petit peu.
Blanchissement ne veut pas nécessairement dire derrière une mortalité. La gravité de l'événement va être vraiment en fonction de sa durée.
Et vous allez comprendre en écoutant ce qu'il y a précisément derrière ce terme de blanchissement. Le corail perd tous ses repères, en fait, si par exemple l'eau se réchauffe trop et trop longtemps, au-dessus de 30 degrés. Et l'équipe qu'il forme avec normalement l'algue qui lui fournit son énergie, elle part complètement en vrille, cette équipe.
Lorsque le corail est en stress, il ne reconnaît plus cette algue comme un partenaire dans cette symbiose et il va expulser cette algue. C'est cette algue aussi qui donne la coloration. Donc on va avoir finalement ce corail qui va être translucide, comme une petite anémone translucide, comme une méduse renversée translucide. Et c'est pour ça qu'on va avoir le blanc, qui est le blanc du squelette carboné, qui est du carbonate de calcium, tout simplement. Là, le corail n'est pas encore mort, mais pendant 1 à 2 semaines, eh bien, il ne va plus avoir l'apport énergétique de ces algues, et il va quelque part, petit à petit, mourir de faim.
Et avec la mort au bout, si ça dure donc trop longtemps, mais aussi une possibilité de reprendre des couleurs.
Si dans cette période-là, vous avez des inversions climatiques avec des vents plus importants qui vont agiter l'eau, qui vont ramener des eaux un peu plus fraîches, des remontées d'eau froide. Le phénomène se stoppe. Le corail est capable, même le corail qui est blanchi, s'il est toujours vivant, est capable de recapter ces algues dans l'eau directement et de repartir et d'avoir une mortalité qui peut être limitée. Voilà.
Donc tout n'est pas perdu, d'autant que les récifs peuvent montrer de grandes capacités d'adaptation par endroit. Serge Plane d'ailleurs exclut une disparition pure et simple de la Grande Barrière de corail, mais estime qu'il pourrait y avoir des transformations. En tout cas, tout ça n'est pas une raison pour ne pas s'en inquiéter. D'ailleurs, l'UNESCO est en ce moment sur la Grande Barrière pour évaluer si d'abord l'Australie la protège suffisamment et s'il décide cette fois-ci de classer dans la catégorie en péril cette Grande Barrière face au réchauffement climatique, ce qui n'avait pas été fait l'an dernier.
C'était Camille Passauvert à réécouter sur le podcast de La Terre au carré.
France Inter.